écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. La rénovation des bâtiments devient une véritable nécessité pour faire face aux enjeux climatiques. On vous explique dans un instant pourquoi et comment faire. Mais d'abord, le procès de 14 militants de Greenpeace s'ouvre aujourd'hui à Bruges. On s'est demandé si la justice et les forces de l'ordre sont en train de criminaliser les activistes du climat. Nous sommes le mercredi 7 juin. Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
14 activistes de Greenpeace comparaissent aujourd'hui devant un tribunal à Bruges. Fin avril dernier, ils ont pénétré dans le terminal du transporteur de gaz naturel Fluxys dans le port de Zeebruges. Ils comparaissent aujourd'hui pour intrusion illégale en bande dans une infrastructure critique et risquent un an de prison. L'occasion pour nous de se demander si les forces de l'ordre, la justice et le monde politique ont durci le ton envers les activistes de l'environnement. Marine Bouisson, journaliste au Pôle Idée, et Michel de Melenard, journaliste au Pôle Planète, nous explique. Bonjour Michel.
Bonjour Sandrine.
Bonjour Marine.
Bonjour Sandrine.
Alors vous vous êtes demandé s'il y a un durcissement des forces de l'ordre, de la justice et du monde politique à l'encontre des activistes du climat. Quels sont les événements qui vous font penser que ça pourrait être le cas aujourd'hui ?
On constate que dans les pays voisins, en France, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, les forces de l'ordre et parfois la justice ont décidé de, je dirais, passer à un braquet supérieur en matière de répression des militants environnementaux et climatiques en particulier. Vous avez entendu parler de ces militants qui se collent contre des œuvres d'art. Ce collectif-là, qui s'appelle Génération, donc, a fait l'objet d'une procédure. Et là, on a clairement la justice allemande, n'y a pas été par quatre chemins, puisqu'elle parle clairement d'une organisation criminelle. Dans ce cas-là, à Londres, il s'agit du collectif qui s'appelle Extinction Rebellion, qui est un groupe de personnes qui ont décidé vraiment de pratiquer la désobéissance civile, mais relativement radicalement. Les militants se sont fait une spécialité de bloquer des axes routiers avec tout le chaos évidemment que ça engendre, et certains membres de ces collectifs ont été condamnés à des peines de prison fermes, des condamnations assez sévères. Donc on s'est posé la question de savoir, tiens, est-ce que la même chose est en train de se passer en Belgique, et est-ce que ce procès à Bruges est un peu le signe, parce qu'il est exceptionnel, qu'il y a une petite crispation du côté de l'appareil judiciaire.
Vous avez parlé à différents activistes du climat en Belgique, quel est leur ressenti ?
Alors il est évidemment très différent en fonction des personnes auxquelles on parle. Je dirais que pour résumer, en ce qui concerne l'attitude des forces de l'ordre, le constat c'est qu'il y a une légère crispation dans les interventions, qu'on arrive plus rapidement à des actions répressives, à l'utilisation de spray au poivre par exemple, à des arrestations plus rapides, éventuellement à des menaces verbales. Ça dépend d'une zone de police à l'autre, ça dépend d'une action à l'autre. Il y a des actions qui se passent extrêmement bien, et par contre il y a d'autres actions où il y a manifestement une volonté d'intervenir de manière plus rapide et plus costaude, je dirais, plus rigoureuse de la part des forces de l'ordre.
Avec des contrôles d'identité aussi plus fréquents ?
Avec des contrôles d'identité plus fréquents, avec effectivement des saisies de matériel qui ne sont pas destinées à exercer de la violence. Hein. Ce sont des panneaux, ce sont des affiches, etc. Donc des saisies de matériel avec des fouilles à nu parfois. On peut dire que ce sont une série de petites dérives qu'on constate.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas seulement envers les activistes du climat, c'est globalement, ça se constate dans les manifestations en général, que ce soit en Belgique mais aussi en France, par exemple contre la réforme des retraites, il y a eu aussi beaucoup plus d'arrestations administratives, une forme d'intimidation et une forme de crispation du côté des forces de l'ordre.
Quand on entend parler d'arrestations de tout un groupe de militants, on peut se demander s'il y a un aval politique derrière ce type d'opération. Il y a une volonté de limiter le droit de protester, de manifester.
Bon, c'est clair que l'autorité politique est l'autorité responsable des forces de l'ordre. Elle donne son aval à ce que les forces de l'ordre font. Après, c'est jamais un bourgmestre ou un chef de zone qui va dire vous devez fouiller à nu, ou vous devez matraquer, ou vous devez utiliser votre spray au poivre. Il faut dire aussi qu'il y a des règles en principe intangibles qui existent. Par exemple, à Bruxelles, la zone neutre, il est interdit d'y manifester. Le bourgmestre n'a pas à dire on peut ou on ne peut pas. La zone neutre, on n'y va pas. Et si on y va, on se fait arrêter. Il n'y a pas de lézard à ce niveau-là, il n'y a pas d'hésitation à avoir.
Et à l'inverse, les manifestants vont aussi identifier clairement la police avec l'ordre en place, le gouvernement en place. Quand on va manifester et qu'on a une réponse policière qui ne nous convient pas en tant que manifestant, tout de suite on va relier ça au gouvernement, aux gens qui gouvernent. Quoi.
La justice s'est aussi servie de notions juridiques qui n'étaient pas prévues au départ pour être utilisées contre des activistes du climat.
Dans le cas des activistes pour le climat, par exemple, on a évoqué ce procès de Bruges, le juge incrimine les manifestants en utilisant une infraction, le fait de pénétrer dans une installation sensible, portuaire en l'occurrence, qui est une infraction qui était à l'origine plutôt destinée à sanctionner des migrants qui cherchent à rentrer dans un port et à essayer de grimper dans un bateau pour migrer.
Justement, pénétrer dans un port, on peut se dire que finalement c'est normal que ce soit puni quelque part. Les militants flirtent avec certaines lignes rouges quand même.
Alors c'est évident, il y a plusieurs manières de manifester. Il y a la manière classique que l'on connaît, défiler dans une rue après avoir négocié le parcours avec les autorités. Là, tout se fait en rang, on commence à l'heure et on termine à l'heure. Les manifestations aujourd'hui ont davantage évolué vers, comme vous le dites, on flirte avec les limites, on va un peu au-delà, on pénètre dans des enceintes, on reste à des endroits où on ne peut pas rester, on bloque des carrefours, des rues, etc. Il y a effectivement une zone grise où les autorités veulent laisser la possibilité aux manifestants de s'exprimer, y compris en allant dans des endroits ou en faisant des choses qui sont un petit peu au-delà de la limite. Mais il faut à un certain moment arrêter, il faut à un certain moment rétablir la liberté de circulation d'un tram, par exemple. C'est toute la difficulté de trouver un équilibre dans ces différents usages de l'espace public.
Et aussi la question de, est-ce que les actions comme des sittings, des occupations, des entraves, ça peut être qualifié de violent? Si on demande aux manifestants, aux militants, c'est pas des actes violents, hein, selon eux, de s'asseoir par terre et de bloquer la circulation. Si on va demander à un PDG d'Areva ou d'Engie, c'est Bruno Frère qui est sociologue et philosophe à qui j'ai posé la question, ils vont utiliser le mot violence.
On vit aujourd'hui dans une société qui n'a jamais été aussi pacifiée. On vit dans un monde qui est parvenu à mettre la violence vraiment loin à l'horizon de la vie sociale. Et donc, aujourd'hui, toute forme de violence ou de manifestation, en fait, suscite dans le public un sentiment d'effroi. Ces actes violents-là qui relèvent, pour les militants dont on parle, hein, écologistes, très souvent du sabotage ou du sitting ou de l'occupation de place, c'est finalement une violence extrêmement faible dans l'échelle des violences politiques qu'a pu connaître le XXe siècle en Europe, quoi. Si vous prenez la manière dont certains ont pu, par exemple, entraver le passage de trains ou de camions chargés de déchets nucléaires, si vous donnez la parole au PDG d'Areva ou... forcément, ils vont utiliser le mot violence, alors qu'il n'y a aucune violence, naturellement. Mais l'enjeu, c'est quand même de disqualifier l'adversaire en le faisant passer pour un terroriste, quoi. Mais ça ne leurre presque personne. On peut aussi penser à des moments où il y a effectivement davantage de violence dans les ZAD, la violence supposée de certains occupants du site, par exemple, de Notre-Dame-des-Landes, la violence supposée de ces activistes-là, elle ne faisait que répondre à la violence de la police. Alors même que cette ZAD est on ne peut plus pacifique et regroupe en gros une centaine ou 200 personnes qui ne demandent rien d'autre que de vivre tranquille dans leur potager et avec leurs trois chèvres.
Les activistes environnementaux se radicalisent aujourd'hui, on se rapproche de l'extrémisme, est-ce qu'on peut dire ça?
Disons que ce qu'on peut constater, c'est que, la conscientisation est beaucoup plus forte qu'il y a quelques années. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui se mobilisent, de plus en plus de gens sont préoccupés, inquiets, en colère et se mobilisent. Donc il y a plus d'actions, il y a plus de manifestations. D'autres personnes ont décidé véritablement de passer à la désobéissance civile. Et parmi ces personnes-là, des gens qui considèrent que l'utilisation de certains moyens plus radicaux, comme des destructions de matériel, comme des destructions de propriétés privées, etc., se justifient eu égard à l'urgence et à la gravité de la situation. C'est peut-être moins le cas en Belgique, mais je pense aussi que viennent se greffer d'autres mécontentements, d'autres colères, des colères sociales parfois, qui sont des colères face aux inégalités. Il y a aussi toute une série d'autres motifs de colère qui viennent se greffer à ces manifestants.
En France, le ministre de l'Intérieur a qualifié ces manifestants d'éco-terroristes. Aux Pays-Bas, il y a eu 1500 manifestants arrêtés parce qu'ils bloquaient une autoroute. Est-ce que la Belgique reste finalement un havre de paix pour les militants écologistes, ou est-ce qu'il faudrait plutôt s'inquiéter que la répression se durcisse chez nous ?
Ben alors c'est clair que factuellement, on est loin de ce qui se passe en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. On a évidemment cité le procès de Bruges contre les militants de Greenpeace, mais c'est ce genre de procès resté exceptionnel. Jusqu'à présent, les confrontations se déroulent surtout entre les manifestants et les forces de l'ordre. Jusqu'à présent, on peut vraiment dire, je ne vais pas dire que la Belgique est un havre de paix, ce serait excessif, mais en tout cas, l'équilibre dont je parlais tout à l'heure entre la possibilité de s'exprimer, mais aussi la nécessité de maintenir l'ordre, cet équilibre, il est plus ou moins garanti. Il y a très peu de manifestations qui sont interdites en Belgique et particulièrement à Bruxelles. Ça se passe, je dirais, plutôt bien. Cela dit, quand on discute avec les uns et les autres, à la fois du côté des responsables politiques, mais aussi du côté des militants, ils se disent tous, attention que ce qui est en train de se passer en France et ailleurs ne fasse pas tache d'huile chez nous. J'ai discuté avec une personne d'un service de sécurité, donc ils sont chargés de garder un œil sur les extrémismes, et ces gens font très bien la différence entre proférer des idées extrêmes et passer à des modes d'action violents, auquel cas ces gens sont contrôlés, sont surveillés, sont... Mais tant que ça reste dans le registre de la non-violence, en tout cas de la non-violence contre les personnes, eh bien, ça reste de l'extrémisme. Il n'y a jusqu'à présent rien qui interdit à qui que ce soit d'avoir des idées extrêmes.
Si on regarde ce qui s'est passé en France à Sainte-Soline, par exemple, manifestation contre les méga-bassines, il y avait évidemment des militants climatiques, mais c'est vraiment un catalyseur, ça agrège vraiment d'autres colères en fait. Bien sûr qu'il y a des gens qui manifestent pour le climat, mais il y a aussi, surtout en France, un climat social fort lié à la réforme des retraites dernièrement, il y a eu les gilets jaunes, c'est très spécifique à la France, donc le côté tache d'huile, il y a des spécificités au pays et que c'est aussi important de garder ça en tête.
Et est-ce que ces durcissements découragent les activistes ?
Moi, ce que j'ai entendu, c'est que oui, ça décourageait. C'est évidemment difficile de faire le compte, hein. C'est compliqué de le dire. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que, par exemple, la fameuse manifestation qui s'est déroulée à Bruxelles et qui a mené à plus de 400 arrestations administratives par la police de Bruxelles en 2019, que clairement, la manière dont ça s'est passé à ce moment-là, la brutalité de l'intervention et les arrestations ont découragé pas mal de gens de retenter l'expérience par après.
Et est-ce que, à l'inverse, en Belgique, il y a déjà eu des condamnations des forces de l'ordre qui auraient outrepassé leurs prérogatives ?
Il y a eu au moins une condamnation de la police de Bruxelles qui, encore une fois, en 2019, est tombée sur le rable de militants qui s'apprêtaient à manifester contre le Black Friday, donc contre le vendredi d'ultra-solde qui célèbre notre société de consommation. Donc des militants qui s'apprêtaient à manifester contre ce Black Friday ont été arrêtés préventivement. Donc ils n'avaient même pas encore commencé à manifester, ils ont été arrêtés par la police. Le matériel de manifestation, c'est-à-dire des pinceaux, de la colle, des affiches, etc., a été saisi. Ils ont été fouillés à nu, avec génuflexion, ils ont passé une nuit en prison. À deux reprises, un tribunal a jugé que ces arrestations étaient illégales et arbitraires, et la police de Bruxelles a été condamnée.
Alors après avoir travaillé sur cette question, quel est votre sentiment aujourd'hui ? Vous avez l'impression que les forces de l'ordre, la police, la justice, le monde politique est plus dur envers les activistes du climat aujourd'hui que par le passé.
Et la désobéissance civile a plus ou moins toujours existé, en tout cas elle n'a pas émergé aujourd'hui avec les militants climatiques. Ce serait une erreur de circonscrire le phénomène juste aux militants climatiques. Je crois que c'est important d'ouvrir un peu la fenêtre et de se poser la question de l'usage de la force envers les manifestants en général. Il y a un durcissement de la part des forces de police qui encadrent les manifestations et les manifestants. En Belgique, comme en France, comme en Europe en général. Et les personnes qui travaillent sur le maintien de l'ordre, chercheurs, chercheuses, universitaires, globalement le constatent et le confirment.
Sur la question de l'attitude du pouvoir judiciaire, c'est assez compliqué de répondre parce qu'il y a très peu de procès en réalité, donc c'est compliqué de savoir si ils augmentent ou pas, s'ils se déroulent à bon escient ou pas. Je pense que la plupart des témoignages confirment quand même que du côté des forces de l'ordre, ou en tout cas d'une partie d'entre elles, il y a une volonté d'être plus rigoureux, plus strict. Je crois aussi qu'au niveau du politique, il y a peut-être une espèce de saturation, une
d'agacement.
Oui, peut-être d'un agacement, pas des manifestations. Il y en a quand même beaucoup dans notre pays. Sur le climat, il y en a quand même beaucoup aussi. Sur l'environnement, il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup d'interpellations du politique sur le thème. Vous n'en faites pas assez, ça n'avance pas, ça ne va pas assez vite, etc. Je crois que du côté du politique, certainement du côté des partis qui se trouvent le plus à droite de l'échiquier, il y a un sentiment que ça suffit maintenant, que tout le monde peut s'exprimer, mais qu'il y a des limites, que le politique en fait déjà beaucoup, que ça avance et qu'il faut arrêter. C'était un petit peu le discours d'Alexandre de Croo lors du dernier sommet mondial sur le climat. Il disait qu'il faut arrêter de pointer le doigt, il faut arrêter de ronchonner, il faut arrêter de protester. C'est un peu une petite musique comme ça qui tourne dans le monde politique et qui même tourne, je pense, aussi dans le monde des entreprises, etc. Et peut-être que ça peut mener à ce qu'à certains moments, on prenne des mesures un petit peu trop
liberticides,
vives contre les gens qui s'expriment et qui manifestent.
Merci Michel, merci Marie.
De rien.
Merci.
Sous l'impulsion du Green Deal européen, tous les pays membres doivent viser, pour leur parc résidentiel, une classe PEB vertueuse, comprenant moins énergivore, un objectif qui passera forcément par une rénovation massive du bâti en Belgique. Il y a quelques semaines, on vous a proposé un supplément Soir Immo consacré à la rénovation. Notre collègue Paolo Leonardi y répond à de très nombreuses questions. Ce dossier est toujours accessible sur notre site et Paolo est passé en studio pour nous donner quelques explications.
Bonjour Paolo.
Bonjour.
On va commencer avec une question simple et un peu large. Pourquoi ce caractère indispensable à la rénovation ? On n'a que des vieilles maisons et que des vieux immeubles en Belgique ?
Que des vieilles maisons et que des vieux immeubles, non. Mais c'est clair qu'on a quand même le bâti belge passe pour être un des plus anciens d'Europe. Juste pour vous donner quelques chiffres, sur les 5,7 millions de logements que compte la Belgique, 3 millions sont peu ou mal isolé. En termes de passoires énergétiques, en région de Bruxelles-Capitale, on en a quand même 54%. Donc, ça veut dire que plus d'une maison sur deux est considérée aujourd'hui comme une passoire thermique. 53% en Wallonie, 32% en Flandre. Donc, vous constatez que ce n'est peut-être pas entièrement vieux, mais c'est quand même très vieux. Et juste pour vous donner un dernier chiffre, qui est quand même assez évocateur, on estime que d'ici 2050, ça on va en parler, puisque c'est la date clé en termes de rénovation énergétique, on considère qu'il faudra investir 300 milliards d'euros dans les rénovations.
Quand on parle de rénovation, ici, et vous l'avez un petit peu évoqué, en fait, on parle essentiellement d'isolation. C'est joué sur les performances énergétiques des bâtiments.
On parle principalement d'isolation, je dirais. Pourquoi ? Parce que c'est le poste le plus important. Ça ne sert à rien de changer sa chaudière, ça ne sert à rien de changer ses châssis, de mettre du double vitrage, si on ne commence pas par isoler sa maison, pour une raison très simple. La chaleur, vous savez qu'elle sort. Elle sort par la façade, elle sort avant tout par le toit. Donc la première chose à faire, c'est isoler le toit. Ensuite, on s'attaquera aux façades, en sachant qu'à Bruxelles notamment, il est très très difficile d'isoler sa façade avant. On vous demandera généralement dans ce cas-là d'isoler de l'intérieur, mais que vous pouvez isoler la façade arrière. Mais ça, il faut le faire, absolument. Pourquoi ? Parce que ça évite à la chaleur de partir, et ça évite aussi la chaleur d'entrer en plein été. Donc quelque part, ça réduit vos factures énergétiques, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas mauvais.
Oui, c'est ça, parce qu'améliorer les performances énergétiques de son bien, c'est bon pour la planète, c'est bon pour notre portefeuille, et pas seulement, en fait, il y a toute une série de conséquences positives à la rénovation.
Alors, la première d'entre elles, outre les factures qui sont allégées, c'est évidemment une augmentation de la valeur de son bien. C'est clair qu'une maison qu'on a isolée avec un nouveau toit, avec une isolation de la façade, des bons châssis, une chaudière, des pompes à chaleur, des panneaux photovoltaïques, ben, c'est clair qu'elle vaudra plus cher. On améliore aussi le confort de vie. Dans une maison qui est bien isolée, qui est ventilée, l'air est plus sain. Et puis on a aussi cette fameuse réduction de son empreinte écologique pour la planète. C'est évidemment très bien.
Quand on parle immobilier et énergie, on parle souvent de PEB. C'est trois lettres qui peuvent peut-être donner des cauchemars à certains. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler en un mot qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, avant toute chose, je voudrais dire que la PEB, elle existe depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. On ne s'en rend peut-être pas bien compte parce que c'est depuis quelques années qu'on en parle beaucoup, mais ça fait quand même 10 ans qu'elle est là. PEB, ça veut dire quoi ? Performance énergétique du bâtiment. En fait, c'est très simple. Vous faites appel à un certificateur PEB parce que ça ne se fait pas comme ça par hasard. C'est quelqu'un qui vient chez vous, qui analyse votre maison sous tous ses aspects, les châssis, l'isolation, enfin tout est passé au crible, le système de chauffage. Et puis il vous délivre un certificat sur lequel vous avez des lettres. C'est très simple. À Bruxelles, ça va de A à G. Même chose pour la Wallonie. A, parfait, votre maison est nickel, elle est prête pour 2050. G, c'est très mauvais. Et la Flandre, parce qu'on est quand même en Belgique, hein, ça aurait été trop facile d'avoir les trois régions qui avaient la même PEB. La Flandre, ça va de A à F. Et en fonction de ça, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce qu'il y a des restrictions qui ont été introduites depuis peu, qui ne vont faire que s'accentuer. Il faut bien se dire que si vous avez une passoire énergétique aujourd'hui, ben, vous n'allez pas pouvoir la garder encore très longtemps. Donc il va falloir un jour ou l'autre vous mettre à rénover, ben, c'est certain.
Aujourd'hui, c'est possible plus ou moins de quantifier la PEB des maisons en Belgique, du bâti en Belgique. Il y a une espèce de moyenne qui est faite pour tout le pays. Et c'est la question qui s'enchaîne. Vous avez parlé de la date de 2050. L'objectif à atteindre pour 2050, c'est quoi ?
Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que d'une manière générale, sur l'ensemble de la Belgique, 35% des logements sont énergivores. Ça veut dire qu'ils consomment beaucoup d'énergie et donc ils ont une PEB de E à G. Donc, ce sont des biens à rénover de toute urgence. 35%, c'est quand même beaucoup. Alors, les objectifs, bon, on sait évidemment que ces objectifs sont dictés par le Green Deal européen. En substance, c'est plus d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc, la Wallonie, qu'est-ce qu'elle veut faire ? D'ici 2050, elle veut atteindre une PEB A. Donc, l'objectif est quand même très ambitieux, d'autant que la Wallonie est fort en retard par rapport à son bâti. La Flandre, elle veut atteindre une PEB A, mais elle est diverse de la Wallonie, on en a un peu parlé. Et Bruxelles, c'est une PEB moyenne de C. Mais là aussi, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on était plutôt dans le F et le G, ben pour arriver à C, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique.
Hein. Oui, l'objectif est tout aussi ambitieux à Bruxelles. Rénover, oui, évidemment, tout le monde a l'air de dire que c'est une bonne idée, mais il y a évidemment la question du prix qui se pose, parce que en termes de rénovation, la facture peut très vite monter.
Oui, et alors là, c'est évidemment très difficile de vous donner des fourchettes de prix. On reçoit, nous journalistes, régulièrement des études qui vous parlent de différentes études qui ont été faites soit par une institution bancaire, soit par une autre institution, peu importe la rénovation, le prix des rénovations, surtout aujourd'hui avec la hausse du prix des matériaux, c'est très difficile à évaluer. Mais on est bien d'accord que si on veut commencer par isoler son bâti, on est vite à 50 000 euros. Hein, et si ce n'est pas 50 000, c'est 40 000. Et puis si on ajoute les châssis, si on ajoute les panneaux photovoltaïques, pour donner vraiment une fourchette très large, je dirais qu'on est entre 40 et 100 000 euros. Hein. Ça peut très vite monter aussi, d'autant que la période, malheureusement, n'incite pas à rénover à cause de ces hausses de matériaux dont je viens de parler.
Et on renvoie nos auditeurs au large dossier que vous avez écrit, qui est toujours disponible sur le site du Soir, pour aussi s'y retrouver dans les subsides, dans les aides qu'on peut demander, dans les éventuelles choses qui peuvent être défiscalisées. Juste pour finir dans le podcast, une petite série de bons conseils. Si je suis décidé à rénover mon bien maintenant, que je veux lancer les travaux le plus vite possible, c'est quoi la bonne idée ? Il faut tout lancer le plus vite possible parce qu'il y a un peu de retard et les corps de métier, oui, peuvent prendre du temps ?
Exactement. Ça, je dirais que les corps de métier, ça peut prendre beaucoup de temps, surtout qu'on approche des vacances là en plus, mais même indépendamment des vacances, c'est difficile aujourd'hui d'en trouver un qui accepte de venir rapidement, d'autant que les devis ne sont plus, comment dirais-je, ils ne valent plus que pour une certaine période qui est beaucoup plus courte qu'avant, vu le prix des matériaux qui est changeant. Et je dirais que ça, c'est la première chose à faire, c'est contacter quelqu'un qui viendra vous faire vos travaux. Et deuxième chose, c'est de vous adresser au niveau des primes. Parce que bon, les primes, elles existent. Alors c'est vrai que c'est compliqué parfois de s'y retrouver, c'est un vrai labyrinthe, mais elles existent et ce serait dommage de passer à côté. Et donc, on peut citer par exemple pour Bruxelles, l'organisme s'appelle Rénolution. C'est un organisme qui rassemble à la fois des primes à l'énergie et à la rénovation. Et ils ont mis en place un organisme d'information qui s'appelle HomeGrade. Bon à savoir, Wallonie, c'est RénoPlus. Et là, pour les infos, on s'adressera au guichet de l'énergie. Je pense que ça vaut vraiment la peine de passer par là. C'est la première étape indispensable, outre celle qui est de prendre contact avec les corps de métier.
Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup, Paolo.
Avec plaisir.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre fidélité. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner plein d'étoiles sur toutes les plateformes de podcast. À demain.